Bonjour. Il y a 2 semaines, nous avons eu un message donné par Ricardo. Est-ce que vous vous souvenez de ce message? Dites oui, il est là, il faut l'encourager. Puis ça m'encouragerait moi aussi de savoir qu'on retient nos enseignements au moins sur 2 semaines. Est-ce que vous vous souvenez du texte que Ricardo a apporté, a enseigné? Marc. Ricardo a commencé à enseigner sur l'évangile de Marc, et cette initiative est celle des anciens. Nous voulons que sur cette année, nous puissions ensemble faire un voyage merveilleux, un voyage tout au long de l'évangile de Marc. Et donc, très régulièrement, nous allons prêcher sur cet évangile pour nous permettre à nous tous, en tant qu'Église, d'avoir le grand tableau, de voir comment est-ce que Marc, inspiré par le Saint-Esprit, a voulu nous présenter Jésus-Christ et son œuvre. Ricardo, il y a 2 semaines, nous a dit que Jésus était quelqu'un qui était digne de confiance, parce qu'il avait été annoncé par les prophètes, parce qu'il a été identifié par Dieu lui-même comme étant son fils, et parce qu'il prêchait la vérité. Aujourd'hui, je vous propose avec moi de continuer à la suite de ce texte-là pour voir comment est-ce que l'auteur, après avoir donc établi que Jésus est digne de confiance, va maintenant établir une chose qui est capitale pour nous et pour notre foi. Si nous n'avons pas cela, notre foi sera toujours ébranlée. Nous devons avoir confiance et reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Son autorité absolue, non pas simplement sur notre vie, mais sur absolument toute chose. Et je crois que Marc, inspiré par le Saint-Esprit, après avoir démontré comment Jésus avait été annoncé et arrive, veut avant tout démontrer son autorité et l'appuyer pour que nous comprenions avant toute chose qu'en tant que ses disciples, nous devons reconnaître son autorité et nous laisser conduire par lui. Alors ce matin, nous allons voir 4 aspects de cette autorité, 4 dimensions de cette manifestation de l'autorité de Jésus. Et nous allons lire donc à partir du verset 16 du chapitre 1, donc juste à la suite de là où Ricardo s'était arrêté dans l'évangile de Marc. À partir du verset 16, et nous lirons jusqu'au verset 39. Et pour souligner ces 4 dimensions, je découperai donc le texte en 4 parties, 4 lectures. Je commence à lire à partir du verset 16, donc jusqu'au verset 20. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque et réparait les filets. Aussitôt, il les appela et ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils le suivirent. Première chose que Jésus veut nous montrer, que l'auteur, que Dieu lui-même veut nous montrer, c'est que Jésus a autorité sur notre vie, parce que c'est lui qui nous appelle. Ici, 4 hommes sont appelés à le suivre d'une manière radicale. Pierre et son frère quittent leur travail, leur entreprise. Jean et Jacques aussi, et ils quittent en plus leur père qui est présent et leurs amis. Et Jésus arrive dans leur vie, prend autorité, les appelle avec autorité et leur dit ce qu'ils doivent faire, le suivre. Jésus arrive, appelle et demande à ces personnes de le suivre. Étaient-ce des hommes hors du commun, avec une formation spirituelle déjà bien développée, des connaissances théologiques très pointues, ou une intelligence et des capacités extraordinaires? Avait-il un charisme, un potentiel? Non. Ce sont des quidam. Quatre hommes, quatre anonymes, comme nous tous. Jésus les appelle, il prend autorité sur leur vie, et une seule certitude pour eux, c'est que jusqu'à présent, ils attrapaient des poissons, et désormais, ils vont apprendre à attraper avec Jésus des personnes qui sont perdues, et accompagner Jésus dans sa mission. Ils n'ont aucune perspective de ce qui les attend concrètement. Et donc Jésus va vouloir leur démontrer son autorité après les avoir appelés, c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce texte. Mais avant, nous devons comprendre qu'il y a une chose d'unique dans la foi chrétienne, quelque chose d'absolument capital. Si nous nous trompons là-dessus, c'est toute la vie chrétienne qui en est tordue, tout le sens de la vie chrétienne est tordu. La chose d'unique et d'essentiel dans la foi chrétienne, c'est que nous ne suivons pas quelque chose comme des lois, mais nous suivons quelqu'un, Jésus-Christ. La vie chrétienne est une vie à la suite de Jésus-Christ. Nous ne suivons pas des lois, mais une personne qui nous a appelés. Nous ne décidons pas de rentrer dans une philosophie, de rentrer dans une croyance, mais nous avons été appelés par Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par lui. C'est lui qui nous a invités, qui nous a ordonné à le suivre et qui nous place sous son autorité. Nous sommes donc appelés par Christ à le suivre dans ce qu'il est en train de faire. C'est ce que confirme l'apôtre Paul quand il décrit son ministère à la fin de sa vie et comment il s'est consacré à l'Évangile. Il dit ceci, « Et pour cette cause, l'Évangile, j'endure ses souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » Non pas en quoi je crois, mais en qui j'ai cru. Paul a rencontré Jésus-Christ et l'a suivi. C'est Christ qui est allé et qui l'a arraché de sa vie et qui l'a pris à sa suite. Et c'est ce que fait Christ avec chacun de ses frères. C'est ce que fait Christ pour tous les chrétiens. Et parfois, nous avons tendance à considérer peut-être la foi chrétienne comme étant simplement une démarche d'adhésion intellectuelle, d'adhésion humaine. Non, la foi chrétienne est le fruit, est une réponse à un appel de l'autorité de Dieu même. L'appel de Dieu au travers de Christ à le suivre. Et c'est lui qui fait de nous ses disciples. Cela me rappelle un petit peu ce qui s'est passé pendant les deux guerres mondiales. Et j'ai regardé hier un petit peu des chiffres sur la mobilisation qu'il y a eu pendant la guerre. Vous savez que dans la première guerre mondiale, entre 14 et 18 donc, 8 millions d'hommes ont été mobilisés. Ils ont reçu un ordre. Est-ce qu'ils étaient avant préparés? Est-ce qu'ils avaient tous reçu une formation? Non. Certains oui, mais d'autres non. Mais ils ont été appelés par l'autorité pour rentrer dans une mission. Eh bien, la vie chrétienne, pour chacun d'entre nous, c'est exactement la même chose. Nous sommes appelés par quelqu'un qui a l'autorité et qui nous demande de marcher à sa suite. Il n'y a donc qu'une seule façon dont nous devons concevoir la vie chrétienne au quotidien, comme une vie à la suite de Jésus-Christ. Et il y a donc deux implications que je voudrais que l'on voie de cela avant de passer au point suivant. La première, c'est que nous ne devons pas fonder notre identité ou nos espérances dans notre vie sur ce que nous sommes, sur notre potentiel, sur notre intelligence ou sur nos capacités ou sur notre manque de force, notre manque de caractère ou toutes ces choses-là. Non, nous avons été appelés. Christ nous appelle tel que nous sommes. Il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Deuxième chose, c'est que nous devons comprendre quel est le principe que Dieu veut nous enseigner au travers de ce récit-là. Quel est son objectif? Est-ce que le but pour chacun d'entre nous, Est-ce que c'est la norme de dire que nous devons tout quitter nécessairement pour rentrer à la suite de Christ? Est-ce que c'est cela ce que ça implique? Non. Nous devons comprendre que le principe derrière ce texte-là, c'est que dans notre vie, tous nos objectifs de vie, tout ce à quoi nous aspirons, doit passer en deuxième plan. Notre carrière, toute chose, notre famille, nos amis, nos loisirs, toutes ces choses-là doivent être mises en second plan parce que Christ nous appelle à le suivre. Et donc notre objectif final ne doit pas être, par exemple, notre carrière professionnelle, mais que dans notre carrière professionnelle, nous suivions Christ, que nous soyons au quotidien à sa suite, en nous posant la question, mais qu'est-ce que Christ serait en train de faire s'il travaillait ici parmi mes amis, parmi mes collègues de travail? Comment il se comporterait dans mon foyer? Qu'attend-il de moi? Comment marcher à sa suite aujourd'hui quand je vais partir au travail? Comment marcher à sa suite? Est-ce que ce sont des questions que nous nous posons encore? On se les pose au début de sa vie chrétienne, mais je crois que nous devons être attentifs et régulièrement nous rappeler cette question. Comment aujourd'hui vais-je suivre concrètement Jésus-Christ? Première chose, Christ prend l'autorité de nous appeler. Deuxième chose, c'est Christ qui nous enseigne parce qu'il en a l'autorité. Et je lis maintenant les versets 21 à 22. Donc Christ les a appelés, ils le suivent, et ils se rendent dire à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Christ appelle ces quatre hommes, ils le suivent, il les amène dans la synagogue et il enseigne. Et là, ils sont frappés avec tous les autres de son autorité lorsqu'il enseigne. Ils n'avaient jamais constaté cela. D'où venait cette autorité de Jésus? D'où venait cette puissance dans son enseignement? D'une stratégie de communication extrêmement bien huilée, d'un humour ravageur qui savait capter l'attention des autres ou d'une voix particulièrement forte? Je ne crois pas. Jésus est le plus grand enseignant qu'il n'y ait jamais eu sur terre. Jésus est le plus grand enseignant qu'il n'ait jamais eu sur terre, parce qu'il est lui-même le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu qui s'est incarnée, qui est devenu homme et qui a parlé. Et quand Dieu parle à nos cœurs, nous sommes frappés par son enseignement. Et s'il y a une chose que nous constatons dans tous les évangiles, c'est que jamais l'enseignement de Jésus n'a laissé quelqu'un de neutre. Soit on adhérait, soit on était bouleversé, frappé, soit ça poussait à la haine et au rejet parce qu'on n'acceptait pas la vérité que Jésus enseignait. Jésus enseigne avec autorité. Il montre à ses disciples qu'il est venu les enseigner comme aucun homme ne peut le faire. Sa parole est la seule autorité que ses disciples devront suivre toute leur vie. Parce qu'ils ont été appelés, ils doivent suivre son enseignement. Jésus révèle très souvent son autorité de plusieurs façons différentes. Et nous allons le voir, il va faire aussi des miracles, des choses extraordinaires. Mais Jésus utilisait aussi l'enseignement tout simple du jour du Shabbat dans la synagogue, comme pour nous la prédication le dimanche matin. Jésus venait, prenait les Écritures et enseignait à partir des Écritures, qu'il avait lui-même inspirées. Et Jésus venait en expliquer le sens pour frapper ses auditeurs. Mettons-nous à leur place. Je m'imagine écouter Jésus enseigner les Écritures. À la fin, après sa résurrection, en Luc au chapitre 24, il nous est raconté l'histoire de deux hommes qui sont sur le chemin pour retourner à Emmaüs après que Jésus soit ressuscité. Et Jésus apparaît à ces hommes-là et par un mystère, un miracle, ils voilent son identité, ils ne le reconnaissent pas, mais ils cheminent avec eux et ils commencent à leur enseigner qui il était à partir de l'Ancien Testament. Et Jésus les enseigne, et il est dit en Luc 24, « Il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. » Et ensuite, ces hommes ont dit, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Jésus fait brûler notre cœur avec les Écritures. Jésus nous enseigne pour nous transformer, pour nous frapper, nous chambouler, pour prendre autorité et venir révéler la vérité, venir nous faire comprendre quelle est la puissance de sa grâce et de l'Évangile. C'est lui qui creuse un sillon jusqu'au plus profond de notre âme pour nous faire comprendre qui il est. Et je me souviens d'il y a presque 10 ans, j'allais dire 20 ans, le temps passe toujours vite, on a l'impression. Il y a presque 10 ans, quand je lisais pour la première fois de ma vie l'Évangile selon Matthieu, toute première fois de ma vie. Et j'ai lu chapitre 1, 2, 3, 4, jusque-là tout allait bien. Et j'arrive au chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, et c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, où Jésus enseigne à des foules. C'est le premier gros enseignement qu'on a dans cet évangile. Et je me souviens comme j'ai été chamboulé, frappé, vraiment, alors que je lisais en me demandant qui était Jésus. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un en qui je peux placer ma confiance ? Je me souviendrai toujours que la première chose qui m'a frappé, ce n'est pas son amour, ce n'est pas sa grâce, c'est son autorité. La façon dont il enseignait et affirmait la vérité avec autorité. Et alors que je lisais, j'avais l'impression que c'était Jésus lui-même qui me lisait les Écritures, que c'était lui-même qui était en train de m'enseigner. Et en réalité, c'est ce qui se passait. Christ nous enseigne au travers de ses paroles. Et je voudrais qu'on se pose ensemble cette question. Quand est-ce que Jésus m'a enseigné pour la dernière fois ? Mais vraiment, quand est-ce que j'ai été seul à l'écouter, à lire la parole, et que j'ai été frappé, chamboulé par son enseignement ? Je ne veux pas dire que chaque jour et à chaque fois lorsqu'on ouvre sa Bible, c'est une révélation extraordinaire de grands élans émotionnels que nous vivons. Mais si l'on ne peut même pas se rappeler la dernière fois où Jésus nous a chamboulés par la parole, c'est que soit Jésus s'est mis à enseigner comme un scribe qui n'a plus aucune autorité, soit que c'est que nous n'avons probablement pas pris le temps de l'écouter. Christ réclame l'autorité et veut nous enseigner. Nous devons donc nous mettre à son écoute. C'est le moyen qu'il a utilisé pour transformer la vie de ses disciples. Première chose que nous voyons, c'est que Christ est celui qui appelle. Deuxième chose, c'est qu'il est celui qui enseigne. Et enfin, troisième chose, avant la quatrième, c'est que c'est lui qui a tout pouvoir. Et c'est ce qu'il veut vraiment poser. Je crois vraiment que dans l'évangile de Marc, au début de tout l'évangile, le but vraiment est de poser ce fondement-là, que Christ a absolument tout pouvoir et toute autorité sur toute chose. Ce n'est pas quelqu'un de fragile qui est venu au milieu de nous. Non, c'est un roi qui est venu pour montrer son autorité et qui est venu pour servir. Je lis maintenant à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre !» Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, du sort qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Tu m'étonnes. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à le servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Quelle démonstration de puissance de Jésus. Comme par hasard, il enseigne et les gens sont frappés par son autorité. Et là, un homme démonisé se lève, se présente. C'est lui qui va vers Jésus. Il faut bien voir dans le texte, c'est cet homme qui va à Jésus pour l'interpeller. Ce n'est pas Jésus qui va à lui. Cet homme va à la confrontation contre Jésus tout en reconnaissant qu'il est foutu d'avance. Jésus montre qu'il a toute autorité sur le monde des ténèbres, sur Satan et sur les démons. Jésus, devant ses disciples, et son public poursuit une démonstration d'autorité qu'il a commencé par l'enseignement, et là, il la poursuit en chassant le démon de cet homme. Plus tard, dans la maison de la belle-mère de Pierre, Simon dans ce texte, mais il s'appelle Pierre, Simon-Pierre, c'est la même personne, Jésus ne leur permettra même pas de se manifester. Là, par sa parole, il prend une autorité et il fait faire ce qu'il veut aux démons. L'homme démonisé reconnaît tout de suite la divinité de Jésus. Tu es le Saint de Dieu. Pour lui, il n'y a aucune surprise. Souvenons-nous que juste avant ce texte, Jésus a été amené par l'Esprit dans le désert et que pendant 40 jours, il a été soumis à la tentation de Satan et de ses démons et qu'ils ont vu qui il était. Et maintenant, le démon face à Jésus voit que Jésus maintenant passe à l'offensive et il sait qu'il est venu pour le perdre. Marc nous fait comprendre que Jésus, devant ses disciples, veut leur démontrer une chose par rapport au monde invisible, qui est très importante. La présence de Satan et des démons dans notre monde est bel et bien réelle. Et c'est ce que ses disciples doivent apprendre. Satan est bien à l'œuvre et ses démons sont bien à l'œuvre concrètement dans la vie des personnes pour faire souffrir le monde. Ces forces de ténèbres s'opposent particulièrement à Jésus-Christ et à son œuvre. C'est ce que nous voyons dans les évangiles. Satan s'oppose à ce que Christ est en train de faire. Et Jésus veut que ses disciples comprennent cette réalité-là spirituelle. C'est ce que Paul aussi rappelle à l'Église lorsqu'il dit que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes que nous avons à combattre. Il y a une dimension d'un combat spirituel qui est à l'œuvre et Jésus veut que ses disciples se rendent compte de cela. Mais cela ne s'arrête pas ici. Christ veut leur démontrer qu'il a toute autorité pour délivrer du royaume des ténèbres. Et il y a un enseignement concret pour nous. Certains chrétiens vivent dans une peur constante du monde spirituel. un monde spirituel qui est bien réel et qui est bien actif. Mais certains vivent comme s'ils étaient dans un combat dantesque entre Dieu et le diable qui se battraient à force égale, et eux se retrouvent au milieu et ballottés, et espèrent que Dieu aura la victoire. Ce n'est pas une vision biblique du combat spirituel. La réalité spirituelle, c'est que Christ a la victoire et a autorité. Et qu'en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre les puissances des ténèbres. Nous n'avons pas à craindre Satan. Nous sommes à l'abri de son amour. Nous l'avons chanté. Et ce que Christ révèle à ses disciples. Et je crois précisément que le but de Marc n'est pas de nous montrer que nous avons le même pouvoir que Jésus. Dans ce texte, il est là pour nous montrer que Jésus a une autorité unique, celle de chasser même les démons. Aucun homme ne peut faire ça. Une autorité unique pour enseigner, une autorité unique pour appeler. Et Jésus poursuit, suite à cet exorcisme, quand il est dans la maison de la belle-mère de Pierre, à soigner tous les malades. Et je me suis dit que la pauvre, elle a dû même regretter peut-être que Jésus l'ait soignée, parce que du coup, toute la région se pointe chez elle, il faut bien nourrir toutes ces personnes qui sont malades. Imaginez, la fièvre était peut-être dans son lit peinard. Mais... Ou peut-être que c'est Pierre, il s'est dit « ma belle-mère, elle a été soignée ». Mince. Non, ceci n'est pas dans le texte, je vous le rassure. Jésus démontre par la guérison de cette femme qu'il a aussi tout pouvoir sur le monde matériel. Et il n'y a pas nécessairement non plus de lien entre la réalité spirituelle, un homme démonisé qui souffrait physiquement, et là cette femme, elle a juste de la fièvre parce qu'elle est juste malade. Il y a les conséquences du péché d'un point de vue spirituel, parce que Satan est à l'œuvre dans le monde, et il y a aussi les conséquences du péché simplement dans notre corps, parce que nous sommes corruptibles. Le péché nous a rendus dysfonctionnels, et nous tombons aussi malades. Mais Jésus démontre à ses disciples qu'il peut réparer la dysfonctionnalité, qu'il peut guérir, qu'il a même tout pouvoir sur la matière, sur nos vies. Jésus a toute autorité sur l'ensemble de la création. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui a tout pouvoir. Et enfin, quatrièmement, nous allons voir que c'est lui qui dirige. Je lis les derniers versets, 34 à 39. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. À la fin de cette soirée d'intense activité, Jésus a prêché, il a guéri, il a chassé les démons, alors qu'il a tout pouvoir, toute autorité, qu'il pourrait faire cela non-stop. J'en suis convaincu. Jésus éprouve le besoin de se retirer, de se mettre à l'écart pour aller se ressourcer, se reposer dans la prière. Et nous voyons cet équilibre partout dans les évangiles. Christ alterne entre le ministère public, l'action, vraiment il se donne, et des moments où il se met à l'écart et il va pour prier. Et dans tous les moments clés de son ministère, quand il va nommer les apôtres, quand il va aller à la croix juste avant, que fait Jésus? Il se met à l'écart pour prier. un équilibre. Jésus recherchait toujours la direction du Père dans son ministère. Il recherchait toujours à nourrir cette intimité avec le Père et à se ressourcer dans sa relation d'amour avec celui qui l'a envoyé. L'activité n'a jamais primé sur son ministère. Et je remercie Dieu de m'avoir donné les évangiles dans la Bible. Parce que si je n'avais que les lettres de Paul, j'aurais l'impression que la vie au service de Dieu, c'est qu'une vie de service. Tu agis. C'est de l'activisme pur, on a l'impression, l'apôtre Paul, quand on lit rapidement. Mais quand on regarde l'importance que Paul met lui-même à la prière, au ressourcement spirituel, et quand on regarde aux évangiles comment Jésus lui-même a démontré et nous expose sa vie de prière, on se rend compte de la place de la relation avec Dieu centrale, non pas parce que nous suivons des ordres ou des lois, mais parce que nous suivons une personne, et cette personne veut une communion avec nous. Elle nous a appelés pour cela. Et que se produit-il alors que Jésus est dans l'intimité avec le Père, dans la prière? Il s'empresse de les chercher. Et quand il les retrouvait, il lui dit « Tous te cherchent !» C'est l'émeute. Est-ce que récemment, j'ai vu ça, et je me suis dit, à mon avis, les disciples devaient se trouver dans la même situation. Est-ce que vous avez croisé récemment un élève de 3e qui fait son stage en entreprise? Parfois, on les voit, on va chez le coiffeur, il va avoir quelqu'un, on va dans un magasin, ou voilà. On y est peut-être tous passés. Qui a déjà fait un stage en entreprise quand il était en 3e? Voilà. Donc, nous pouvons être... Comment se sent un jeune élève de 3e projeté dans ce monde adulte du jour au lendemain, privé de ses amis? Il sait même pas où se mettre, il ne sait pas quoi faire de son corps, il ne sait pas quoi faire de son regard, de ses mains, de est-ce qu'il doit répondre ou pas. Je me souviens moi-même, mon premier, c'était l'angoisse totale, complètement débordé par ce qui leur arrive. Eh bien, je crois que les disciples se sont retrouvés un petit peu dans la même situation. Les malades arrivent de toute la région parce qu'ils entendent parler de ce que Jésus a fait. Et les gens amènent leurs amis, tout le monde arrive devant la maison de la belle-mère de Pierre. Vous l'imaginez, la pauvre, oh, encore refaire la marmite et tout ça pour tous ces gens. Toute la foule est là. Donc eux, ils sont en panique, ils courent, ils vont chercher Jésus, parce que Jésus s'est caché. Jésus s'est mis dans le secret. Jésus s'est mis à part avec le Père. Et forcément, il dit, Jésus, il y a des besoins, viens. Et Jésus dit non. Allons ailleurs. Manque de compassion? Ces gens avaient vraiment des besoins? Pourquoi est-ce que Jésus dit « Allons ailleurs » Je trouve que c'est très étonnant si on s'arrête juste à ces mots-là. Non, allons ailleurs. Par deux choses. Non seulement il y a d'énormes besoins, et répondre aux besoins, ça motive pour servir. Quand on voit des besoins, s'il n'y a pas de besoins, bon, on va ailleurs. Mais s'il y a des besoins, on reste. Et s'il y a de la réussite, là où il y a des besoins, quand on fait quelque chose, qu'on réussit à répondre vraiment à des besoins, on est encore plus encouragé à rester. Moi qui suis dans le ministère, là où je veux servir, c'est là où il y a des besoins et là où je vais réussir. Je n'ai pas envie d'aller servir à un endroit où je vais me planter et où on n'a pas besoin de moi. Naturellement, c'est là qu'on va, là où il y a des besoins, et là on réussit, là on est bon. Et Jésus dit, non, allons ailleurs. Quand la foule était présente, Jésus ne s'est pas débiné. Il a répondu présent. Et il a œuvré, il a soigné, il a guéri, il a montré toute son affection, tout son amour, toute sa compassion à cette foule qui était là et qui avait besoin de lui. Il les a enseignés. Mais Jésus dit à ses disciples, après s'être ressourcé auprès du Père, après avoir écouté le Père, maintenant, allons ailleurs, parce que j'ai une mission à poursuivre. Il faut que j'aille prêcher ailleurs. Ces personnes ont déjà été au bénéfice de son ministère, et Jésus, qui a une mission, veut faire comprendre à ses disciples que ce n'est pas eux qui dirigent, ce n'est pas à eux de dire « il faut que tu fasses ceci ou cela parce qu'il y a des besoins là », mais que c'est eux qui le suivent et que c'est lui qui dirige. Et c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Ils doivent comprendre qu'il est venu faire quelque chose de bien plus important que simplement guérir des malades. Il a un message à enseigner de partout qui peut guérir bien plus que des maladies. Un message qui peut sauver les hommes et les femmes de l'enfer. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Trois fois, Marc rappelle ceci. Dans ce verset-là, quand il dit « Allons ailleurs afin que j'y prêche, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il y a une double lecture, c'est pour cela que je suis sorti me ressourcer et aller prier pour me préparer pour la suite et rechercher la volonté du Père. Et en même temps, c'est pour cela que je suis venu dans le monde. Au chapitre 2, verset 17, Jésus, quand il enseigne, dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » La vraie maladie, c'est le péché. Et c'est à celle-là que Jésus vient répondre. Et pour nous démontrer qu'il peut répondre au problème du péché, Jésus montre qu'il a tout pouvoir sur toute chose. Au chapitre 10, verset 45, il dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ce n'est pas à ses disciples, ce n'est pas aux chrétiens, ce n'est pas à l'Église de définir les besoins. Jésus n'est pas venu pour se soumettre aux besoins des hommes, mais il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et comment Jésus vit cela? Par la prière. C'est par la prière qu'il calquait sa volonté sur celle du Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté, il dira plus tard, dans la prière. Il ne vivait pas sous la dictature des besoins, mais dans le désir de faire ce que Dieu lui avait demandé. Et c'est pour cela que c'est lui qui dirige. Les disciples sont des personnes qui suivent quelqu'un qui les a appelés et qui est en train de faire quelque chose. Les disciples sont des personnes qui ont été appelées par Christ, qui a toute autorité et qui est en train de poursuivre sa mission de service du Père, de service des hommes pour les délivrer de leurs péchés. Et les disciples de Jésus vont le suivre et servir avec lui et devenir aussi des pécheurs d'hommes. Jésus a toute autorité parce que c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui a tout pouvoir et c'est lui qui dirige. Alors concluons maintenant. Comment est-ce que nous pouvons nous approprier ce texte? Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, disait ceci. Avoir la foi, c'est signer une feuille blanche et permettre à Dieu d'y écrire ce qu'il veut. Avoir la foi, c'est signer une feuille blanche et permettre à Dieu de faire ce qu'il veut, d'y écrire ce qu'il veut. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Quand Christ nous a appelés, c'est ce que nous avons fait. C'est lui qui est l'auteur de notre vie. C'est lui qui construit l'histoire. C'est lui qui l'écrit. Et nous devons le suivre. Notre rôle n'est pas de dire à Jésus ce qu'il devrait faire, mais de suivre ce qu'il fait. Mais comment le suivre si je n'écoute pas son enseignement? Si je n'écoute pas sa parole? Comment le suivre? Comment savoir où il va? Comment savoir ce qu'il veut faire? C'est impossible. Comment le suivre si je doute qu'il a tout pouvoir sur absolument toute chose, alors qu'il nous demande de faire des choses impossibles? Nous l'avons étudié dans notre dernière étude en groupe de quartier. Christ nous appelle à faire des choses qui sont impossibles. Humainement, nous n'en avons pas les capacités. Mais nous le suivons, lui qui est en train de faire quelque chose. Nous devons avoir confiance en cette autorité-là. Comment le suivre si je n'écoute pas son enseignement ou si je ne crois pas son autorité? Et encore pire, comment le suivre si je ne prie pas? Si je ne nourris pas mon intimité avec lui? La direction dans notre vie, retenez ceci, la direction dans notre vie ne se trouve ni dans les besoins, ni dans la réussite. La direction pour notre vie se trouve dans la prière. La direction pour notre vie se trouve dans la prière, pas dans les circonstances. Jésus a calqué sa volonté sur celle du Père et il recherchait la volonté du Père dans la prière. Et je crois que Jésus est un modèle pour nous de vie de prière. Il n'a pas simplement dit qu'il fallait prier. Jésus est venu montrer lui-même sa vie de prière. Il nous l'a exposé pour que nous puissions apprendre de lui et l'imiter. L'intimité que nous devons, la relation que nous devons chercher avec Dieu est celle que Jésus avait avec lui. On a besoin de recevoir régulièrement le repos, le ressourcement et la direction de Dieu pour vivre selon notre appel. Et pour moi, qu'est-ce qu'il est difficile, alors que je travaille à temps plein pour servir l'Église, qu'est-ce que la prière est un challenge. Quand je vois les mails, les dossiers sur lesquels je travaille, les choses qui sont en retard, parce que j'ai toujours des choses en retard, les rendez-vous et tout, de me dire, il faut que je régente ma vie et que comme Jésus, je sache dire stop et que je reconnaisse qu'avant tout, j'ai besoin de prier. Et je crois que nous devons l'imiter en régentant nos vies, en prenant du temps à part, en nous trouvant notre lieu désert à nous, où il n'y a aucune personne ou aucune notification qui va venir nous perturber et où nous pouvons nous mettre à son écoute. Pas simplement les miettes, mais la part principale, la part prioritaire qui lui revient doit être dans la prière. La prière n'est pas la chose importante à faire pour nous préparer à faire des choses importantes. La prière est elle-même la chose la plus importante que nous devons nourrir dans notre vie. Et on pourrait passer des heures à voir dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, l'importance de la prière. Et croyez-moi, si on me demande d'évaluer ma vie de prière, j'en aurais honte. J'aurais honte si ma vie de prière vous était exposée à tous, parce que elle n'est pas absolument pas satisfaisante, parce que je ne prends pas assez de temps pour écouter Dieu. Mon rêve, ce serait qu'on dise, comme il a été dit pour Tryphon lors de son enterrement, que Tryphon était un homme de prière. Et c'est presque la seule chose que j'ai retenue de cet après-midi-là. C'était un homme de prière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on dira de moi ? Que je faisais plein de trucs, que je répondais aux besoins, que j'avais de la réussite ou des choses comme ça ? Ou que j'étais un homme de prière ? Je veux être un homme de prière. Prions ensemble. On te supplie, Seigneur, de venir à notre aide parce qu'on veut vivre une vie à ta suite. Tu nous as appelés et t'as fait de nous tes disciples et nous te remercions du fond du cœur pour ça. Merci pour ce privilège de nous avoir arrachés du monde des ténèbres et transportés dans ton royaume. Seigneur, dans notre vie, nous voulons faire ce que tu attends de nous, ni plus, ni moins. Seigneur, permets-nous qu'au travers de ta parole, au travers de notre intimité avec toi, tu nous permettes de le découvrir et que de plus en plus nous puissions vivre selon l'appel que tu nous as donné. Seigneur, renouvelle en nous le désir de l'intimité avec toi, de la prière, de l'intimité dans ta parole. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.